Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à une grève historique.
Bonjour à tous et bon courage pour cette journée noire qui s'annonce.
Alors que la mobilisation s'engage contre la réforme des retraites, j'avais envie que l'on s'arrête aujourd'hui sur un autre mouvement resté gravé dans les mémoires, les grèves de 1995, devenues une sorte de référence des grèves auxquelles on ne cesse d'ailleurs de faire allusion, comme ici, il y a peu sur BFM Télé.
Mais qu'est-ce qui fait qu'une mobilisation est réussie? Il y a plusieurs exemples. Votre modèle, c'est peut-être 1995, mais on a vu aussi dans le passé que des mobilisations contre la réforme des retraites n'ont pas servi à faire reculer le gouvernement.
1995, dernier grand mouvement à avoir fait plier un gouvernement sur une réforme des retraites, même s'il n'y avait pas que ça dans le plan Juppé. C'est ce qu'on va voir dans ce focus avec deux témoins aujourd'hui. Bernard Thibault, une des grandes figures de cette mobilisation pour la CGT. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Et Michel Viviorca, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose d'abord que l'on remonte le fil de ces grandes grèves pour pouvoir mieux les comparer à celles de 2023. À l'automne 95, la France bouillonne, comme le souligne alors l'éditorialiste Philippe Alexandre sur RTL.
Les syndicats défilent, les étudiants font grève, les députés bougonnent. Jusqu'à la dernière minute, le gouvernement a peaufiné son plan pour la sécurité sociale. La fièvre est partout. C'est bien normal car tout se tient et tout procède au fond d'une seule et même cause. Le pays endetté jusqu'au cou a du mal à boucler sa trésorerie et à satisfaire ses besoins vitaux. La situation calamiteuse qu'a trouvé le gouvernement Juppé et qui ne s'est pas le moins du monde améliorée depuis l'élection présidentielle, au contraire, rend insupportables les échéances financières au terme de ces 6 premiers mois de septennat dont les Français gorgés de promesses attendaient tant.
Promesses et espoirs liés notamment au grand thème de campagne de celui qui a été élu quelques mois plus tôt, Jacques Chirac, le candidat de la lutte contre la fracture sociale.
D'un côté, il y a ceux qui s'en tiennent toujours aux mêmes recettes. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. En fait, ils soignent les effets plutôt qu'ils ne soignent les causes. De l'autre côté, il y a ceux qui continuent de croire à la force de l'idéal républicain et qui donnent la priorité à la cohésion sociale. C'est la voie que j'ai choisie.
Un thème vite balayé, l'objectif de réduction des déficits devient une priorité, souligné d'ailleurs le 15 novembre 1995, quand le Premier ministre Alain Juppé présente son plan sur les retraites et la sécurité sociale.
Je tiens à prendre devant vous, et solennellement, un double engagement. La volonté, je dirais presque l'obsession du gouvernement, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité des soins dont bénéficient les Français quand ils en ont besoin. La qualité n'est pas et ne doit pas être négociable. Tous les Français doivent être bien soignés, c'est la seule justification, quand on y réfléchit, des réformes que nous sommes en train de faire. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou. Il s'agit de faire en sorte que les Français soient bien soignés.
Boucher le trou de la Sécu, le fameux trou de la Sécu avec des déremboursements de médicaments, un alignement des régimes de retraite de la fonction publique sur le privé ou encore...
À noter encore un gel des prestations familiales l'année prochaine à titre exceptionnel, a précisé le Premier ministre. Et puis on va demander un effort de solidarité aux médecins et aux laboratoires pharmaceutiques, un effort de solidarité qui leur coûtera 5 milliards, alors que l'effort demandé aux retraités et aux chômeurs par le biais de l'augmentation de leurs cotisations sera de 7 milliards.
C'est un traitement de choc. Il y avait déjà eu en septembre l'annonce du gel des salaires des fonctionnaires. Ça, c'était vraiment les mesures de trop, Bernard Thibault, ce plan du 15 novembre 1995.
Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi dire qu'en 1995, et peut-être qu'il y aura certaines similitudes avec la période actuelle, c'est que le mouvement est aussi construit de plusieurs raisons qui se sont conjuguées. S'agissant des cheminots, dont chacun se souvient, en tout cas pour ceux qui ont vécu la période, qu'ils étaient, disons, un peu à l'avant-garde du conflit, même s'il y avait bien d'autres secteurs mobilisés, il y avait déjà un conflit latent à propos du devenir de la SNCF et du devenir du statut des cheminots. On était dans une logique de contrat de plan, je ne vais pas être trop technique, mais... À l'époque, 6000 km de lignes ferrées étaient menacées au motif d'économie sur la gestion de la SNCF. Et sur une mobilisation qui déjà existait dans la profession, vient se greffer donc cette annonce du gouvernement d'une remise en cause d'un plan Juppé dont une partie consiste à remettre en cause les régimes de retraite dans la fonction publique et les entreprises publiques. Donc là, on a eu une conjonction, si vous voulez, de mécontentement qui est aussi à l'origine de la puissance du mouvement. Et puis, comme vous l'avez très bien rappelé au travers du son historique que vous avez diffusé, c'est aussi le contre-effet d'une année d'élection présidentielle, puisque le conflit a lieu en novembre, mais le président Jacques Chirac est élu au mois de mai sur le thème de la fracture sociale. Et ça apparaît naturellement très paradoxal, pour le moins, que dès le mois de novembre, le gouvernement, après des élections s'étant axées sur la fracture sociale, annonce un plan de réforme de la sécurité sociale qui se caractérise surtout par des économies et, quoi qu'en disait le Premier ministre à l'époque, une réduction du dispositif de prise en charge de la santé dans notre pays. Donc la sécurité sociale apparaissant comme un outil au contraire participant à la cohésion sociale. Donc tout cela a alimenté le mécontentement qui a donné lieu au mouvement que l'on sait, qui effectivement a contraint le gouvernement Juppé à renoncer sur une partie des plans,
on va y revenir,
à savoir la remise en cause des systèmes de retraite particuliers et le contrat de plan SNCF. D'ailleurs, c'est à partir de ce mouvement qu'une nouvelle étape dans le devenir de la SNCF s'est dessinée. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'une régionalisation du transport ferroviaire est née. On peut admettre que c'est la grève qui a contribué à ce qui est maintenant une régionalisation du transport ferroviaire avec un rôle accru des élus régionaux pour définir la consistance du service public, même si depuis, il y a d'autres réformes touchant l'entreprise publique qui l'ont affaibli.
Alors avant le recul du gouvernement et avant la régionalisation du transport ferroviaire, la grève a commencé 24 novembre. Petite photo signée Rémi Sulmont pour RTL à la gare Montparnasse en ce vendredi soir.
Pas de brouhaha. En entrant dans le hall, la première chose que l'on voit, c'est cette phrase qui défile sans arrêt sur le panneau lumineux.
La circulation des trains est très perturbée. Seuls les trains affichés circulent.
Mais le panneau d'affichage n'affiche pas grand-chose. Un train environ toutes les demi-heures, voire toutes les heures, et encore.
Michel Viviurca, ce sont vraiment les cheminots qui ont porté ce mouvement ?
Ah, ils sont au cœur de l'action, ça c'est très clair. Même si Bernard Thibault vient de très justement le rappeler, le thème de la sécurité sociale concerne tout le monde, si je peux dire, et les retraites, ça va au-delà de celles des cheminots. Donc oui, ils sont à l'évidence au cœur du conflit. J'ajoute d'ailleurs que les syndicats ne sont pas tout à fait d'accord entre eux à l'époque. Petite différence avec ce que l'on observe ces jours-ci. Mmh. Il n'y a pas ce front syndical, mais il y a quelque chose de très, très important tout de suite. Si les cheminots sont au cœur de l'action, il va y avoir tout de suite un sentiment qu'ils incarnent quelque chose auquel tout le monde tient. Et on va se mettre à parler d'une grève par procuration.
C'est-à-dire,
je ne fais pas grève, je ne peux pas, pour telle ou telle raison, j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de travailler... Et c'est très bien comme ça suffit à paralyser suffisamment le pays pour que le gouvernement recule. Et donc, ils font grève, les cheminots et quelques autres, bien sûr, ils font grève aussi pour moi. Et je les soutiens sans faire grève. Et donc, ça a été un sentiment très puissant. Autrement dit, et maintenant, je vais le dire en façon un tout petit peu plus abstraite. Autrement dit, ce qui est en cause, c'est un modèle général. Ce n'est pas simplement la SNCF, ce n'est pas simplement les trains, c'est quelque chose de général. Ce qui est en cause dans cette mobilisation, c'est l'héritage du Conseil national de la Résistance, même si on n'en parle pas beaucoup à l'époque, c'est l'héritage surtout des Trente Glorieuses, d'un certain nombre d'acquis sociaux, et c'est un modèle dans lequel le service public est central.
C'est la défense du service public.
On a une configuration assez différente, parce qu'à l'époque, les gens se disent « je vais défendre ce que la SNCF incarne le mieux, ce que les cheminots portent le mieux, parce que je veux défendre tout un modèle de vie en commun.
Et le résultat, c'est donc qu'il y a de très nombreuses professions qui descendent très régulièrement dans la rue. On a parlé des cheminots, du secteur des transports de manière générale, des infirmiers, des enseignants, les étudiants sont aussi mobilisés et de nombreux secteurs d'activité sont touchés.
Peu ou pas de journaux ce matin et ce partout en France, grève des ouvriers du livre, toujours des perturbations à France Télécom, des centres de tri en grève à La Poste, dans les hôpitaux poursuite du mouvement. Quant à l'enseignement, eh bien la situation risque d'être assez confuse.
Alors, je vous avoue que moi, j'avais 10 ans en 1995. Quand on parle de paralysie, concrètement, Michel Viviurca, ça voulait dire quoi? La grève, elle a duré 3 semaines non-stop. Comment ont vécu les Français à ce moment-là?
Alors, pas du tout comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas Internet. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y a pas le télétravail. Donc, si vous voulez, c'est très, très différent. Si vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous n'avez pas votre train de banlieue, vous ne pouvez pas travailler du tout. Alors qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu, je pense, différent. Alors, je pense que les Français ont quand même, dans l'ensemble, il faut être prudent, ne pas trop généraliser, mais ont, dans l'ensemble, fait confiance à ce mouvement. Ils se sont sentis de ce côté-là très majoritairement. Je ne me souviens plus des chiffres des sondages qu'on avait, mais à l'évidence, ce mouvement avait un soutien dans l'opinion. Il avait aussi un soutien chez les intellectuels. Moi, je faisais partie d'un groupe d'intellectuels qui faisait un soutien, je dirais, réservé. Pas à 100%, mais parmi les grandes figures de la vie intellectuelle de l'époque, quelqu'un comme Pierre Bourdieu allait rejoindre les grévistes, je ne sais plus si c'est ceux de la SNCF ou de la RATP, un peu à la manière de Sartre, 30 ans plus tôt, allant rejoindre les grévistes devant les portes des usines Renault. Vous comprenez, c'était vraiment, il y avait vraiment une forte mobilisation de la compréhension, de la sympathie. On n'était pas non plus, je pense, dans un climat aussi angoissé, aussi fatigué qu'aujourd'hui.
Bernard Thibault, vous aviez donc le soutien de l'opinion publique, il y avait aussi ce soutien par procuration qu'évoquait Michel Viviurca. Quelles images vous gardez, vous, de ce mouvement? On a beaucoup dit que les Français avaient redécouvert la marche à l'occasion de la mobilisation de 1995.
Oui, on a même contribué, figurez-vous, à inventer, je crois, le covoiturage à l'époque. Alors ça s'appelait plutôt l'autostop, hein, une pratique qui était courante, très très ancienne. Mais ça s'est un petit peu généralisé à cette occasion. Et surtout, je me souviens que beaucoup considéraient que pendant cette grève, les gens se reparlaient. Il y avait de l'entraide pour essayer, tout en soutenant le mouvement de grève, et Michel Viviurca a raison de réutiliser, puisque c'est le terme qui a été retenu après coup, d'une forme de grève par procuration, on a eu des soutiens extraordinaires de la part de la population. Alors avec des gestes qui peuvent apparaître anecdotiques, mais qui étaient très parlants. On a vu des commerçants, par exemple, venir sur des piquets de grève pour distribuer tantôt des légumes, des boulangers venir offrir du pain à des piquets de grève. Enfin bref, il y avait ce soutien, même s'il aurait fallu, sans doute, puisque au bilan, j'y reviens un petit peu, si les cheminots, eux, ont eu satisfaction sur l'essentiel de leurs revendications, après le conflit, il est demeuré un certain nombre de dispositions sur le plan de la sécurité sociale qui ont été mises en œuvre. C'est-à-dire que le soutien était naturellement très important, mais en même temps, il n'a pas été suffisant pour emporter, je dirais, la victoire sur l'ensemble du plan Juppé. Si davantage de personnes s'étaient impliquées dans le mouvement, le résultat aurait pu être différent. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première période, je m'en souviens très bien, où les cheminots et les autres personnels des transports, principalement de la RATP, étaient plutôt qualifiés par les principaux médias qui soutenaient tous, quasiment tous, le plan Juppé, il faut le rappeler. Donc pendant 8 jours, on a eu plutôt des séquences accusant les preneurs d'otages, hein, une formule réitérée en permanence lorsqu'il y a des conflits dans les transports.
Les grévistes, quoi.
Voilà, les grévistes. Et puis est tombé le premier sondage d'opinion au bout d'une semaine de grève qui montrait que 58% des Français soutenaient le mouvement. Et là, il y a eu un changement radical, je dirais, de climat, à savoir que des journalistes ont commencé à apprécier la dureté du plan, à se mettre à l'écoute de ceux qui soutenaient le mouvement, à être les témoins de ces actes de solidarité d'une partie de la population à l'égard des grévistes, en disant « tenez bon, vous avez raison, effectivement, vous défendez ». Alors, il y a eu des débat aussi sur le modèle de société, quel avenir on nous réserve, sur les services publics. La Poste était aussi en grève, il y avait une dégradation déjà à l'époque des services publics, ça s'est amplifié depuis. Donc là, il y a eu un changement de pied au point que le gouvernement, au fil du temps, est apparu de plus en plus isolé. Maintenant, si vous me permettez, une grande différence peut-être avec la configuration actuelle, qui va peut-être compliquer et rendre plus dangereuse en plus la période d'aujourd'hui, c'est qu'à la différence d'aujourd'hui, le plan sur la sécurité sociale était d'abord et avant tout porté par le Premier ministre et son gouvernement, M. Alain Juppé. Naturellement, il l'a fait sans doute avec le feu vert du président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque. Mais dans l'impasse, le conflit s'enlisant, s'installant dans la durée, à un moment donné, c'est le président de la République, c'est Jacques Chirac, qui a considéré que ça n'était pas tenable, qu'il fallait sortir de l'impasse, qu'il fallait sortir du conflit. Et c'est lui qui, auprès du Premier ministre, a donné l'ordre, en quelque sorte, d'ouvrir des négociations permettant de s'en sortir. Or, aujourd'hui, c'est là que je voulais en venir, aujourd'hui, on est confronté à une réforme portée par le président de la République lui-même. Ce qui change la donne, parce que, naturellement, exiger le retrait d'une réforme aussi contestée que celle qui est présentée aujourd'hui, ça veut dire désavouer un président de la République. C'est autre chose que désavouer un gouvernement. Mmh. Mais ça, je crois que c'est aussi la conséquence d'une présidentialisation excessive des politiques économiques, sociales, mises en œuvre dans un pays qui, normalement, devrait avoir d'autres ressorts démocratiques pour, justement, préserver la cohésion de la société. Aujourd'hui, le président de la République n'incarne plus, par son attitude, la cohérence, la cohésion de la société française.
Michel Vivirka.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Premièrement, plus les jours passaient et plus Alain Juppé apparaissait comme quelqu'un de raide, droit dans ses bottes.
Il était déterminé.
Bon, il était déterminé, mais sa détermination devenait de la raideur. Et donc, le personnage, si vous voulez, se distinguait d'un Chirac qui était déjà un homme rond, si je peux dire. Donc, effectivement, le modèle n'est pas du tout celui que nous avons aujourd'hui avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Il y a un point dont on n'a pas encore parlé. Aujourd'hui, quand on dit mobilité, on pense évidemment transport public, SNCF, RATP, mais on ne peut pas non plus ne pas penser à voiture, transport utilisant l'essence, produits pétroliers, etc. Et donc aujourd'hui, la question, et on a eu des grèves ces derniers temps, un coup du côté de ceux qui travaillent dans le pétrole, un autre coup du côté de ceux qui travaillent dans les chemins de fer, les contrôleurs, mais aujourd'hui la mobilisation c'est une sorte de tenaille qui prend à la fois en main en quelque sorte la question de la mobilité automobile et celle de la mobilité par transport public. Et je pense que c'est très important comme différence. Et on peut peut-être généraliser un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'opposition publique-privée se pose avec plus d'acuité. J'entendais le patron des patrons avant-hier soir expliquer que le patronat était tout à fait content de la réforme telle qu'elle est proposée par le gouvernement. Et donc, on a vraiment là, d'un côté, le front de tous les syndicats et d'un autre côté, le patronat, face à face. Ce qui n'était pas un discours aussi net à l'époque, me semble-t-il, mais peut-être que Bernard Thibault a... Et notre vision.
Alors, en tout cas, après avoir présenté sa réforme le lendemain, c'était d'ailleurs le lendemain de la présentation à l'Assemblée, Alain Juppé avait affirmé dans Sud-Ouest que si 2 millions de personnes descendaient dans la rue, son gouvernement n'y survivrait pas. Il avait ajouté ne pas croire à cette hypothèse, sauf que le 12 décembre 1995, 2 millions de personnes descendent en effet dans la rue. Le 15, la réforme est retirée, au moins en tout cas, et Bernard Thibault l'a souligné, une partie d'entre elles, et le retour à la normale s'annonce, notamment à la SNCF, comme l'expliquait Virginie Garin sur RTL.
Nous avons obtenu tout ce que nous voulions, ou presque, disent les syndicats de cheminots. C'est une victoire et les assemblées générales devraient se prononcer en majorité pour la reprise du travail. Sur leur régime de retraite et d'assurance maladie, les cheminots ont la garantie par écrit que rien ne sera modifié.
Alors, concernant la sécurité sociale, donc un certain nombre de points, en revanche, sont entrés en vigueur. Vous l'avez dit, Bernard Thibault, mais cette mobilisation, c'est quand même la dernière fois que des syndicats ont réussi à faire plier un gouvernement sur une réforme des retraites.
Oui, c'est vrai. Il y a eu de nouvelles réformes hein, entre-temps et depuis, mais le combat syndical est fait d'une histoire où, vous le savez bien, et malheureusement, je dirais, Ce serait beaucoup plus simple autrement. Tous les combats ne sont pas victorieux. C'est la raison sans doute pour laquelle on se remémore davantage la mobilisation de 95, parce que celle-là a démontré une chose, c'est qu'un gouvernement s'affichant déterminé, comme chaque gouvernement l'est lorsqu'il présente une réforme d'ampleur, qui à chaque fois est argumenté autour de l'intérêt général, de ce qui est bon pour vous, quoi qu'en pensent d'ailleurs les intéressés. Encore une fois, aujourd'hui, on nous explique que le recul de l'âge de départ en retraite serait la seule voie possible pour assurer la pérennité du système, ce que conteste l'unanimité des syndicats. Et Michel Vivorca a répondu à juste raison, ou a évoqué à juste raison, qu'à la différence de 95, aujourd'hui, il y a une unanimité des confédérations, ce qui est à la fois un point d'appui pour la mobilisation, mais ce qui devrait quand même être une mise en doute du côté du gouvernement. C'est Nicolas Sarkozy qui disait à l'époque, lorsqu'on a la CGC, la Confédération Générale des Cadres, sur la même position que la CGT, la Confédération Générale du Travail, c'est qu'on a un problème. Ben, c'est le cas aujourd'hui. Oui, il y a eu, cet épisode de ce qu'on appelait le Jupéton, hein, un gouvernement qui se fixe la barre des 2 millions de manifestants comme étant la barre fatidique. Et ben, on y est arrivé. Alors, les parallèles historiques sont toujours osés. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une configuration tout à fait différente, il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui peuvent amener à ce que la mobilisation autour du projet de réforme des retraites agglomère aussi d'autres types de mécontentements qui se sont déjà exprimés, tantôt sur les questions de salaire, de pouvoir d'achat, de conditions de travail, parce que quand on parle retraite, on parle travail. Or, le travail s'est dégradé en termes de tendance. On ne travaille pas sous les mêmes formes qu'auparavant, il y a d'autres contraintes, mais elles n'en sont pas moins nocives. Bref, tout cela renvoie à des considérants qui n'apparaissent pas du tout pris en compte et qui font le quotidien de dizaines de millions de travailleurs.
Oui, il y a des points communs qu'on peut retrouver. Il y a quand même une différence aussi, Michel Vivorca, c'est que les syndicats en 2023, ils sont beaucoup moins puissants qu'en 1995.
Alors, il y a eu une évolution profonde de ce côté-là, effectivement. D'une part, je pense que la CGT, qui demeure évidemment un syndicat de la plus haute importance, s'est assez radicalisée dans l'ensemble, et que jusqu'à présent, mais c'est en train de changer, jusqu'à présent, entre la CGT et la CFDT, on avait le sentiment de deux univers distincts. En tout cas, une certaine radicalité syndicale, je parle en plus de la CGT, mais il faudra ajouter les syndicats comme Sud. Et deuxièmement, non seulement une certaine radicalité syndicale s'est mise en place, mais en plus, on a vu récemment des syndicats débordés par des coordinations dans le monde.
Par leur base.
Des contrôleurs de la SNCF qui ont dit, nous, on va à la grève, on n'attend pas que les syndicats prennent la décision d'y aller ou pas. Et à l'époque, en 95, il n'y avait pas les Black Blocs et ce genre de choses. Il y avait eu parfois des fins de cortège un peu chaudes, hein, et des autonomes et des choses comme ça, mais quand même, il n'y a pas du tout cette inquiétude que peut faire naître les Black Blocs. Et troisièmement, il y a eu quand même, entre-temps, les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement qui s'est tenu à très grande distance du monde de l'entreprise, du monde des syndicats, et qui a mis en cause en même temps des thèmes qui ne sont pas totalement éloignés de ceux dont on parle aujourd'hui. Donc le paysage, c'est vraiment énormément transformé, et d'une certaine façon, c'est un exploit du chef de l'État que d'avoir mis fin, peut-être très provisoirement, à cette évolution, d'avoir encouragé les syndicats à se mobiliser tous ensemble, face à un patronat qui est lui-même mobilisé de façon assez homogène aussi. C'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant, et je trouve que le syndicalisme sort grandi de la phase actuelle, aujourd'hui, au moment où nous parlons, j'espère que ça continuera.
Donc 95, c'était finalement un point d'orgue, une mobilisation qui est aussi, parce qu'elle a touché l'économie et parce qu'elle a réuni autant de manifestants, est parvenue à faire reculer un gouvernement. Mais aujourd'hui, par ailleurs, il y a le télétravail. Enfin, on se dit que, en termes de paralysie et de difficulté, c'est plus compliqué à créer aussi, Michel Vivorca.
Oui, mais il n'y a pas que la paralysie. Je ne pense pas qu'un syndicaliste responsable dira « mon rêve, c'est de paralyser le pays ». Non, il dira « je veux atteindre certains objectifs, mettre fin à ce projet de réforme ». Je dirais même que les syndicalistes ne sont pas forcément opposés à une réforme. qui sont opposés à cette réforme. Et donc, je pense qu'il n'y aura peut-être pas la paralysie dont on parle beaucoup, mais que par contre, l'impact de cette mobilisation sera considérable et peut-être durable. Et donc, on rentre dans un processus, et non pas juste à un moment. Et dans ce processus, je ne connais personne qui puisse, de façon certaine, dire que l'opinion va évoluer de telle ou telle manière. On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que les conditions ont changé par rapport à 95. Culturellement, vous avez raison, le télétravail, Internet, les réseaux sociaux, la façon de se mobiliser, et aussi le contexte qu'évoquait Bernard Thibault il y a un instant, quand même un contexte d'inflation, de prix qui s'envolent, de précarité, d'inquiétude, etc.
Bernard Thibault, pour conclure.
Oui, alors le télétravail, il est évident, on prend une place de plus en plus importante, et en même temps, je voudrais souligner, d'ailleurs, la période de pandémie l'a bien mise en évidence. Il y a tout un tas d'activités professionnelles qui ne peuvent pas s'exercer, objectivement, sous forme de télétravail, dans des activités de service qui sont essentielles au quotidien. Hein. Donc, ne pensons pas que le télétravail, à lui seul, pourrait, ignorer le phénomène gréviste ou de grève. Je partage le fait que l'objectif d'un mouvement, ça n'est pas la paralysie en tant que telle. La paralysie, si elle se produit, n'est que la conséquence d'un mécontentement ou de mouvement de grève. Et puis l'aspect le plus important, moi j'attire de nouveau l'attention, et je ne suis pas le seul. Je crois que la place réduite ou la présence réduite des syndicats dans un certain nombre d'entreprises a été voulue sur le plan politique, la réforme des instances de représentation du personnel, la négation de l'importance de la voix syndicale dans l'élaboration des lois et des politiques a pu amener un certain nombre de nos concitoyens à considérer que, malheureusement, l'intervention syndicale n'était plus suffisante ou plus efficace, d'où la recherche d'autres moyens, d'autres procédés, d'autres procédures, d'autres formes d'action qui soient peut-être moins pacifiques, voire moins démocratiques, pour faire entendre son désarroi, sa colère, quelle qu'en soit. Et là, j'attire l'attention du gouvernement, du président de la République. S'il ne veut pas entendre l'unanimité des syndicats sur un sujet aussi fondamental et structurant qu'un projet de réforme des retraites, il prend le risque d'une dégradation du climat social dans le pays, mais avec d'autres conséquences et d'autres risques pour la cohésion nationale.
Merci beaucoup Bernard Thibault de nous avoir accompagnés dans ce focus. Merci à vous aussi Michel Viviorca, sociologue, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui s'était joué aussi en 1995, ces grandes grèves auxquelles on ne cesse de faire référence et qu'on a mieux comprises donc grâce à vous. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.